bonsoir, bienvenue sur Radio Campus Paris pour La Relève, votre quinzomadaire radiophonique préféré et consacré aux premières fois et aux nouveaux récits, à moins que ce ne soit l'inverse. Ce soir, on va parler de musique et d'Angleterre, forcément d'Angleterre quand on parle de bonne pop et de musique. Mon invité est une exception, et oui. Bonsoir Luc Diagonet.
Bonsoir Christophe.
Ça vous va d'être une exception ?
J'adore.
Bon, alors vous êtes une exception et peut-être même exceptionnelle car cette émission parle des premières fois. Or vous, vous êtes déjà venu, vous m'avez dit que c'était il y a déjà 7 ans. Vous êtes donc l'homme aux deux premières fois. Et pour commencer, j'avais envie de vous demander si ce genre de paradoxe un peu mystérieux vous plaisait ou pas.
Oui, j'aime beaucoup les paradoxes mystérieux, je crois que vous le savez peut-être. Et j'aime beaucoup les coïncidences aussi, je les trouve tout à fait charmantes. Et je suis très content d'être là, effectivement, 7 ans après. J'avais un petit peu oublié les locaux, mais maintenant ils commencent à revenir.
Ça a changé un peu, hein.
Oui, j'ai l'impression.
Ça a un peu changé.
Oui, j'ai l'impression qu'il y a...
Moi, je n'ai pas changé, je suis comme Rulio, peut-être, mais je ne sais pas. Vous nous direz. Vous, vous avez changé ?
Je ne crois pas. Sinon, peut-être au niveau de la coupe de cheveux. J'ai dû enlever à peu près 80%, mais c'est à peu près tout.
D'accord. Alors, on vous avait reçu, on va quand même expliquer, on vous avait reçu pour une bande dessinée qui s'appelait Jolly Box, que vous aviez écrite avec Ali Schneider. On vous retrouve aujourd'hui avec votre deuxième roman. On a raté le premier, désolé. Ça s'appelle Je vous remercie, un titre en anglais, c'est tout ce qu'il faut pour moi. Scarborough. Comment on prononce ? Scarborough ?
Je crois, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le dis. Je fais même un air tout à fait français, je l'appelle Scarborough. Mais je crois que les Irlandais et Anglais enlèvent complètement le premier O. Je crois que ça devient une sorte de Scarborough.
Scarborough. Donc, qui vient d'être publié dans la collection Satellite, les éditions de poche, les éditions Borgba.
Absolument.
On peut dire ça comme ça. Borgba. Et est-ce que vous vous souvenez, vous, la première fois, vous avez entendu le mot Scarborough ? On va arrêter après, hein, promis.
Je pense que je m'en souviens parce que j'ai dû l'entendre à peu près la première fois où j'ai entendu la chanson, à mon avis. Et j'ai entendu la chanson dans ma vie Scarborough Fair très tôt, puisque je l'ai entendue en CM1. Quand mon prof de musique de l'époque l'a joué avec sa guitare et que je suis tombé un peu moi-même amoureux de cette chanson. Et il nous avait dit ce que c'était à l'époque, je pense, avec un accent peut-être...
Ressemblable au mien ?
Non, je pense qu'il était plus français encore.
Et vous l'avez chanté ? Vous l'avez juste joué ? Pour moi, parce qu'on va dire quand même que Scarborough... je vais arrêter. Scarborough Fair est une chanson de Simon & Garfunkel. Là, il y a trop de R pour moi. C'est horrible. Et qu'est-ce que je veux dire ? Donc, c'est une chanson où être Simon & Garfunkel qu'on apprenait souvent en cours d'anglais plus tard. Donc, vous avez eu, dès le CM1, vous avez eu le droit.
Alors, nous, il nous l'a uniquement joué. C'est-à-dire, il nous a uniquement joué l'arpège sur sa guitare. Il ne chantait pas et on n'avait pas à chanter non plus parce que je pense qu'elle n'est pas si évidente à chanter. Non, non, on avait le droit que d'apprendre des petits morceaux à la flûte à bec. Mais parfois, il sortait sa guitare et il nous jouait un joli morceau.
On va arrêter avec nos souvenirs de cours de musique, mais il n'empêche, ça aide à rentrer dans le roman. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Est-ce que vous êtes comme le personnage de votre livre ? Cette musique vous éblouit, vous passez après beaucoup de temps à la retrouver ? Ou vous l'avez oublié et en vrai, vous l'avez retrouvé quelques années plus tard ?
Non, moi je ne suis pas tout à fait comme le personnage parce qu'il a dû nous dire ce que c'était et je l'ai noté dans ma tête. Et cet arpège en fait, parce qu'il ne jouait même pas la chanson complète, il ne la chantait pas, mais juste cet arpège m'a effectivement un peu obsédé et m'obsède toujours aujourd'hui. Donc je n'ai pas passé particulièrement de temps à la retrouver. Et pardon, j'ai oublié la deuxième partie de la question.
C'est pas grave, moi aussi.
Oui.
Mais est-ce qu'être obsédé, c'est aimer ? La chanson, ou est-ce que c'est juste que vous aviez trouvé ça bizarre, ou est-ce que vous aviez aimé cette musique ?
Je l'ai aimée et elle m'a obsédé. C'est vrai que les deux sont tout à fait différents, mais il y a quelque chose que j'ai trouvé et que je trouve encore aujourd'hui extrêmement magnétique dans une suite de notes qui est somme toute vraiment simple, c'est-à-dire c'est un simple arpège, il y a je ne sais pas combien, 32 notes, mais il y a quelque chose, juste avec ces 32 notes, joué avec une guitare qui, je ne sais pas, a des relents médiévaux, quelque chose de très magnétique, quelque chose de qui aimante le cerveau et qui fait que ça sort jamais de la tête. Et moi, effectivement, depuis le CM1, donc qui était quand même il y a, d'après mes calculs, 30 ans, elle m'est jamais sortie de la tête.
Et est-ce qu'entre-temps, vous avez après vous-même joué de la guitare et essayé de la jouer ou jamais ? Parce qu'a priori, il y a le CM1 où on regarde le prof et puis après, un peu plus tard, on apprend la guitare.
Alors, j'ai commencé à apprendre la guitare avec ce prof cette année-là et notamment CM1, CM2, 6e. C'est les 3 années de ma vie où j'avais décidé que plus tard, je serais guitariste professionnel. Ah. Ensuite, il y a eu d'autres projets qui ont été dessinateurs de BD pour enfants, puis architecte. J'ai fait aucun de tout cela, finalement.
Ah, vous faites peut-être un peu tout cela en écrivant des livres ?
Peut-être. J'aimerais bien, en tout cas. Mais effectivement, j'ai appris la guitare, notamment pour jouer ce morceau-là.
Alors, comment on passe de une chanson qui m'obsède à je vais faire un livre de cette chanson?
Oui, bonne question. Moi, je sais que ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire autour de cette chanson. Et d'ailleurs, j'avais écrit un autre manuscrit il y a longtemps qui tournait autour de celle-ci, de cette chanson aussi. Et après, je crois que pour... J'ai toujours du mal à me souvenir comment précisément vient l'idée, mais je sais que c'est toujours des croisements de plusieurs histoires. Donc là, j'avais envie de parler de cette chanson. Donc j'ai fait des recherches sur la chanson. Et effectivement, il y a quelque chose d'assez mystérieux dans cette... arpège, en tout cas cette mélodie qui s'est passée de siècle en siècle. Donc effectivement, une des dernières versions, celle qui l'a popularisée, c'est Simon et Garfunkel, mais elle remonte au, a priori au 12e ou 13e siècle, cette chanson.
La version originale de... Donc.
Oui, c'est version originale, donc il y a quelque chose de... Enfin, après, je pense que de toute façon, quel que soit le sujet sur lequel on fait des recherches, on arrive à trouver des mystères et des coïncidences, mais...
Vous étiez né au XIIe siècle, non? C'est quoi le mystère?
Non, alors, si, enfin, c'est vache sur mon âge quand même. Mais non, il y a des mystères dans l'interprétation des paroles, il y a des mystères sur comment ça s'est transmis, il y a des mystères sur comment elle a voyagé géographiquement. Donc ça, c'était la première partie de ce qui a... Je sais que je voulais parler de ça, et par ailleurs, j'avais un autre bout d'histoire qui m'intéressait autour de la toute première nouvelle qu'on découvre dans le livre sur cette bande de gamins. Et je crois que c'est le croisement de ces deux.
C'est-à-dire que vous prenez. On rentre un peu dans votre atelier, dans votre boutique. Comment vous fabriquez tout ça dans votre. Oui, atelier, c'est le bon mot. Vous avez des petits bouts, vous prenez des notes, et puis un jour, les deux vont ensemble, et ça fait comme une réaction chimique. Vous dites, ah ouais, les deux, ça marche bien ensemble. Vous avez essayé de les assembler autrement avant?
Non, en général, j'ai effectivement. En tout cas, pour me mettre à écrire un roman, je sais qu'il faut qu'il y ait deux, trois histoires, effectivement, comme vous dites. Qui commence à se mélanger. Alors, c'est pas n'importe lesquelles, c'est-à-dire que je peux pas suturer n'importe quelles histoires, mais je peux me dire à un moment, ah tiens, en fait, cette histoire, et si elle reste avec moi assez longtemps, c'est en général que cette histoire me plaît et que j'ai envie de la raconter. Et le moment où des histoires commencent un petit peu à s'enchaîner les unes aux autres, en tout cas, je commence à voir des sutures possibles, là, j'essaie de les rassembler.
Je me suis demandé pourquoi vous aviez pas essayé d'écrire un essai sur cette chanson. Vous auriez pu écrire quelque chose de savant sur cette histoire, faire peut-être même une thèse.
C'est vrai, mais ça demande beaucoup de travail.
Ouais, c'est du travail, un roman.
Donc j'ai préféré le roman.
C'est peut-être plus libre, le roman.
Je pense que c'est beaucoup plus libre, et puis c'est quelque chose aussi qui... Bah, en vérité, il y a quand même moins de travail à fournir, moins de travail de fond. Et aussi, quand on écrit un roman, je crois qu'on est aussi porté par un souffle. Il y a un vrai souffle, alors qu'une thèse, je pense que je me fatiguerais moi-même.
On y reviendra après. Il faut que je raconte un peu l'histoire de votre livre. Alors, j'ai décidé d'être très feignant, mais j'ai décidé de prendre la quatrième de couverture. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez écrite. En tout cas, elle est très bien. Scarborough, c'est l'histoire d'un professeur d'anglais dont la vie prend une étrange tournure depuis qu'il a entendu un enregistrement musical ensorcelé. Non, pardon, en fait, c'est l'histoire d'une mélodie entêtante qui obsède le narrateur depuis 20 ans. Mais à ce compte-là, on pourrait aussi dire que c'est l'histoire d'un élève inquiétant qui se promène dans sa classe et du meurtre barbare d'un chanteur connu. Non, retenez juste que Scarborough, c'est avant tout une ville d'Angleterre où il faut aller faire un tour pour éclaircir toute cette affaire. Rendez-vous là-bas. Alors, c'est tout ça à la fois ?
C'est absolument tout ça, à la fois. Et je vois que c'est... J'ai de la chance qu'il y ait quelques libraires qui se soient intéressés au livre. Et
vous avez eu le prix de l'instant.
Le prix de l'instant, absolument. Et les libraires, je vois qu'il y a toujours un espèce de... À chaque fois qu'il y a un petit mot, c'est toujours ce roman est impossible à résumer, mais on vous le conseille, donc ça me fait plutôt rire. Effectivement, c'est un entrechoc, un entrelà de plusieurs micro-histoires.
Ça vous fait plaisir d'entendre que c'est impossible à résumer. Je ne sais pas si quand on écrit, on pense à ce qu'on va écrire sur votre livre. Mais est-ce qu'en tout cas, vous, c'est quelque chose qui vous laisse, c'est le genre de littérature que vous aimez, les textes comme ça qui sont peut-être difficiles à résumer?
Oui, c'est en général beaucoup ce que je lis. J'ai eu un petit peu peur quand on... Alors, on disait ça déjà du précédent, qui s'appelle Fraternité. Donc, je me suis dit, oups, peut-être que c'est que j'ai raté un truc. Si c'est dur à résumer, c'est peut-être que ça part simplement dans tous les sens. Et comme je me sens un tout petit peu plus solide sur mes appuis sur celui-ci, je me suis dit que non, en fait, ça me fait plaisir. Et effectivement, ça part dans tous les sens.
Il y a beaucoup de micro-histoires. Je ne suis pas certain qu'il soit impossible à résumer. Ah. Je suis désolé pour vous.
Ah ben non, mais ça me va aussi.
C'est une histoire avec des rebondissements, c'est une histoire qui ouvre des portes, on va dire peut-être des portes de la perception. Depuis qu'on a reçu l'auteur de la simulation, on est parti dans une autre dimension à la relève. Mais en tout cas, oui, c'est pas un récit classique, mais c'est finalement l'histoire d'un homme qui est professeur d'anglais, qui a entendu un jour quelques accords de musique, comme vous le disiez à un instant, et qui à partir de là va être obsédé. Puis un jour, il le réentend et ça va provoquer en lui un mouvement. Mais c'est un résumé. Est-ce que c'est bien résumé ?
C'est un bon résumé.
Non, c'est pour donner envie aux gens de le lire aussi, parce que si on leur dit que c'est impossible à résumer, ils vont avoir peur.
Ah,
alors
non.
Que moi, je trouve que le récit est très fluide. Après, c'est la manière dont les choses se passent, dont vous les avez articulées, qui peut surprendre.
Peut-être. Et j'ai un goût pour la digression qui... peut-être fabrique aussi cette impression qu'il y a plein de petites excroissances sur une ligne narrative. Mais effectivement, sinon, c'est un très bon résumé.
Bon, écoutez, la prochaine fois, j'écrirai la quatrième. Si vous voulez, j'ai trouvé un nouveau métier. Non, je vois votre éditrice effrayée. Il est très bien, votre résumé, il est très très bien. Ne vous inquiétez pas.
C'est vrai qu'elle a l'air effrayée.
Alors, il y a l'histoire, il y a la manière de la raconter. Vous choisissez, il me semble, un ton qui n'est pas très courant dans le roman français. Mais il faut toujours se méfier des généralités. On est plutôt dans de l'onirique. Est-ce que ça, c'est ce que vous aimez aussi ? Je me demande toujours, moi, si les auteurs écrivent des livres qui ressemblent à ce qu'ils aiment ou est-ce qu'ils essaient de s'éloigner de ce qu'ils aiment ?
Alors,
moi... En fait, je ne sais pas ce qu'on peut raconter ou pas de l'histoire. Donc, c'est aussi pour ça aussi que je reste très vague en parlant d'onirique.
En tout cas... Je pense que dans le thème, c'est-à-dire d'avoir une base réelle et d'avoir ensuite des événements qui peuvent être un petit peu fantastiques ou irréels, oui, ça fait partie de ce que je lis, nécessairement. Après, je n'écris pas exactement ce que j'aimerais écrire. Je pense qu'il y a quand même... Enfin, non, je pense que je ne vais pas faire de généralité, mais en tout cas, moi, je sais que...
C'est dangereux, généralité, on est d'accord.
Ça me paraît un petit peu périlleux. Mais disons que moi, j'adorerais, par exemple, écrire des récits qui font peur. Et je sais que c'est pas jamais ce que je pourrais faire précisément. Donc, disons que je reste dans un domaine qui est celui qui me plaît, qui est celui du fantastique. Et après...
Un fantastique assez doux.
Oui.
Assez... on n'a jamais vraiment... Vous dites que vous aimeriez que ça fasse peur. J'allais dire, ça fait jamais peur, finalement. Il y a certes des choses un peu originales, étranges, des animaux qu'on voit, des personnages peut-être fantasques qui n'existent peut-être pas. Mais il y a peut-être des fantômes, même dans votre livre, on ne sait pas trop. Mais c'est ça que vous aimez imaginer un autre univers ?
Oui.
Ça vous ennuierait d'écrire sur le monde tel qu'il est, une histoire qui se passe à Paris, chez un cadre de 40 ans qui vient de se faire plaquer ?
Je ne sais pas que ça m'ennuierait, c'est que je pense que je ne saurais pas le faire. Parce que je pense que c'est une histoire de souffle, on y revient. Je pense que je manquerais de souffle et je m'épuiserais moi-même dans l'écriture en me disant que si je m'épuise moi dans l'écriture, dans la lecture, ça va être une horreur à parcourir. Donc oui, s'il n'y a pas des excroissances ou des dérivations qui sont potentiellement alors soit des portes secrètes ou des labyrinthes ou des êtres un petit peu incompréhensibles qu'on rencontre, je pense que j'aurais du mal à fabriquer.
Votre personnage, le narrateur, il vous ressemble, mis à part qu'il a entendu la même chanson que vous à peu près au même âge ?
En fait, j'espérais que non, parce que celui du premier roman me ressemblait. Donc c'est pour ça que j'ai essayé un petit peu de l'écarter. Je n'ai pas été prof d'anglais, je n'ai pas exactement le même âge. Donc j'ai essayé de l'écarter un petit peu de moi. Mais je pense que nécessairement, en écrivant au jeu, on est obligé d'injecter des réactions un petit peu naturelles qu'on aurait soi-même. Enfin, encore une fois, je fais une généralité. Je vais dire « je », en tout cas. Je pense que j'ai eu ce...
Qu'est-ce que vous avez en commun ? Vous pourriez partir comme ça sur un coup de tête, comme il le fait lui à un moment ? Vous pouvez être obsessionnel comme lui ? Visiblement oui, parce que vous pouvez essayer de passer beaucoup de temps sur Internet pour vous renseigner sur une chanson.
La partie obsessionnelle, absolument. Et puis, en tout cas, la volonté de croire qu'il y a une forme de magie possible dans le quotidien, qu'il y a peut-être des portes qu'on ne voit pas ou qu'on n'a pas ouvertes. Oui, ça, c'est une croyance que je partage avec lui, un espoir même.
J'aimerais qu'on rentre un peu dans la technique de votre roman. Moi, il y a un truc qui m'a marqué, ça peut paraître anecdotique là, peut-être, mais il y a des éléments très concrets. Par exemple, il parle beaucoup des prix au Royaume-Uni quand il y arrive, parce que, ça y est, j'ai dit, il va aller à Scarborough. Il y a un chanteur français très connu à qui il arrive des malheurs. Je ne sais pas si on peut citer son nom, en tout cas, il se fait couper la langue et il en meurt. Est-ce qu'il faut, quand on veut raconter des choses comme ça, un peu onirique, un peu fantastique, même si c'est un fantastique doux. Est-ce qu'on est, vous êtes senti obligé de remettre du réel, des choses concrètes pour que ça passe, parce que sinon on est dans autre chose, peut-être de la fantaisie. Est-ce que c'est vraiment, vous êtes travaillé ça?
Ben, je pense qu'il y a deux choses. Je pense qu'il y a des auteurs, des autrices qui sont capables de créer un monde à partir de rien. Donc des Tolkien, par exemple, il est capable de partir de rien du tout et de dire « je vais construire l'intégralité d'un monde ». Moi, ce n'est pas du tout mon cas. Donc ça fait que je dois m'ancrer dans le réel. Et après, pour s'ancrer dans le réel, je trouve, en tout cas que moi, en tant que lecteur, j'aime beaucoup quand il y a des données précises, des endroits précis, des espèces de petites habitudes qui rendent les personnages plus réels, parce que ça fait qu'on croit plus facilement à l'aspect fantastique.
Ouais, si on ne sait pas où il est prof, dans quel collège, on ne peut pas très bien comprendre ce qui se passe dans sa classe à un moment. Il faut que tout le reste autour soit vrai pour que le moment où ça part, puisse, en tout cas, on puisse être embarqué.
Je pense que sinon, on tombe dans une logique qui est un petit peu celle du conte. Et d'ailleurs, j'ai vu ce nom parfois employé pour parler de Scarborough. Moi, je pense que ce qui fait que ce n'est pas un conte, c'est qu'il y a un ancrage réel dans, par exemple, la ville de Rueil-Malmaison ou les rues de Scarborough, qui sont nommées des endroits qu'il va vraiment visiter, qui existent tous. Donc, c'est-à-dire que le Airbnb qu'il loue, c'est une maison qui existe. Le disquaire auquel il rend visite, c'est aussi un disquaire qui existe. Donc, c'est ça qui fait, je pense, que... En tout cas, moi, quand je lis, c'est ça qui fait que j'arrive à y croire.
Est-ce que de la même façon, toujours la technique, quand on... parce que votre livre est drôle aussi, et moi, je me suis dit... Comment est-ce qu'on dose le comique quand on fait de l'onirique? Parce que j'ai eu une révélation en vous lisant, c'est que mes rêves ne sont jamais drôles et j'ai l'impression que les rêves des gens ne sont jamais drôles. Donc comment on fait pour mettre du drôle sans tuer l'onirique? C'est une question que vous vous êtes posée. Peut-être que c'est moi qui me pose trop de questions, hein. N'hésitez pas.
Non, en fait, ça c'est quelque chose dont j'essaie de parler avec des auteurs-autrices autour de moi. Moi, je ne crois pas avoir choisi mon ton et j'ai l'impression que c'est dans le ton qu'il y a quelque chose
qui est... Vous êtes plus décalé que drôle, c'est plus des notations, c'est pas...
Je pense, et d'ailleurs quand on m'a dit que Scarborough était drôle, pour moi c'est un livre qui est, quand je l'ai écrit, qui est extrêmement mélancolique, et à la lecture, plusieurs, d'ailleurs de nombreuses personnes, m'ont dit qu'ils le trouvaient drôle, ce qui m'a d'abord surpris, et ensuite on m'a expliqué pourquoi on le trouvait drôle, et j'ai compris qu'il y a probablement quelque chose d'assez, peut-être une forme de distance du personnage, ou qui est peut-être une distance que je prends moi-même avec les choses, et un décalage qui fait que peut-être c'est drôle sans que je l'ai choisi ou conscientisé.
Ça vous arrive dans la vie qu'on vous dise que vous êtes drôle sans que vous en rendiez compte?
Non, normalement c'est un tout petit peu plus conscient à ces moments-là.
Alors, dans le livre, on parle de Simon et Garfunkel. Vous aimez aussi les Cocteau Twins? Parce que c'est eux qu'on va écouter maintenant.
Ah, je les connais très mal.
Bon, c'est pas grave, on va les découvrir. Il y a un titre avec plus, avec 3 R, donc c'est un enfer pour moi, je me prépare tout de suite.
Sun.
Allez, c'était les Cocteau Twins, qui sont un peu les cousins de Simon et Garfunkel, on va dire, et ça s'appelait Pearly Do Drops Drops. Allez, on est toujours, c'est toujours la relève sur Radio Campus Paris, et on est toujours avec Luc Dagonet, auteur de Scarborough, aux éditions Satellite. Alors, comme tous les bons, je dirais même les très bons romanciers, je pense notamment à Chabi Molia, qu'on avait reçu pour la Vie ou Presque il y a 2 ans maintenant. Votre roman parle d'une chanson, mais aussi d'un romancier qui s'appelle Basson. J'ai oublié son prénom, si vous vous en souvenez, merci de me le rappeler.
Je crois qu'il est jamais donné.
C'est ça, bon, donc je n'ai pas oublié, c'est qu'il n'a pas de prénom. Et dont on rêve qu'il existe vraiment, parce que moi j'ai fait beaucoup de recherches. Parce qu'en plus, Basson, c'est très pénible quand on cherche Basson, romancier, anglais. Tant on aimerait lire ses livres. Alors pourquoi vous êtes amusé à inventer un romancier dont on trouve dans le texte soit des résumés, soit certaines de ses œuvres? C'est un plaisir de rajouter ça dans le texte?
Oui, c'est un plaisir parce que ça crée une forme de couche de lecture et une couche de mystère, effectivement, qui est... Enfin, moi, ça me fait... très plaisir que vous soyez amusé à aller chercher s'il existait ou pas.
Ah bah ça oui, j'ai passé du temps.
Parce qu'effectivement, il est, j'ai essayé de l'ancrer dans le Royaume-Uni, de l'ancrer parmi ses pairs. Et il y a un autre, disons, avantage à faire ça, c'est que ça me permet d'écrire aussi sous un pseudonyme. C'est-à-dire que ça me permettait aussi d'écrire avec une... D'autres histoires dans l'histoire, d'une part, et avec une écriture aussi qui soit un petit peu plus ancienne, un peu plus désuète, ce qui m'intéressait aussi.
On va dire qu'en plus, oui, ces histoires sont aussi un peu fantastiques. Elles vont se mélanger avec le roman, on ne va pas en dire trop non plus, mais...
Elles le sont un petit peu, elles guident même le narrateur, en un sens.
D'ailleurs, il a écrit un recueil de nouvelles qui s'appelle Comas. Alors
tout
ça, je ne sais pas du tout le dire, je ne sais pas si vous pouvez m'aider à le dire.
Ah, mais c'est exactement ça, Comas comme des virgules.
Comme des virgules ?
Ouais, absolument.
Parce que je me demandais vraiment s'il y avait un jeu de mots avec coma.
Normalement non, mais il est plus là pour nous le dire parce qu'il est malheureusement il est décédé. Hein.
Ah oui,
le révérend Basson.
Mais il a des descendants.
Mais il a absolument des descendants.
On croise ses descendants dans le livre.
Théoriquement oui.
Mais tout ça, ça vous amuse d'inventer tout ça?
Oui,
c'est pas reproche hein, sur le ton que je dis. Mais tout ça, ça vous amuse? Vous n'avez pas honte?
Non,
non, c'est une vraie question de curiosité.
Oui, oui, ça me plaît beaucoup. C'est d'ailleurs un comment dire, il faut quand j'écris que je me tape un petit peu sur les doigts à certains moments pour pas continuer à faire des lacets et des boucles dans tous les sens. Parce que moi, ça me plaît énormément de faire intervenir des nouveaux personnages, de leur tisser des liens un petit peu inattendus avec d'autres personnages ou avec un auteur qui est à l'intérieur, faire des espèces de portes au sein du roman qui mènent vers un autre mini-roman. Tout ça, ça me plaît énormément. Donc il faut au contraire parfois que je me raisonne. Et il y a d'ailleurs des parties de Scarborough qui ont été coupées, heureusement.
J'ai découvert récemment là, le film actuellement là, au cinéma qui s'appelle... Alors, je vais me tromper de titre. Le film de Pierre Salvadori, c'est la Vénus électrique. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la genèse de ce film qu'il racontait il y a peu de temps à la radio. Il faut toujours écouter la radio. C'est qu'en fait, il jouait dans un film et puis on lui a dit « Tu fais un réalisateur ?» Il dit « Oui, mais qu'est-ce que je filme ?» Et on lui dit « Bah, tu filmes l'histoire d'une fille qui, machin. » Et il a eu, à partir de ça, envie de faire le film. Alors, je lui ai demandé si vous, à partir de cet écrivain, vous aimeriez écrire les livres qu'il écrit.
D'abord, je ne connaissais pas cette histoire de la Vénus électrique, mais effectivement, c'est assez épatant.
C'est fascinant, ouais, l'histoire est fascinante, parce qu'en fait, j'ai oublié son nom. C'est la metteuse en scène qui était en train de le diriger, qui le sait jouer un rôle, et qui lui a dit « Mais oui, tu es en train de filmer une histoire d'une fille qui se fait passer, pour qui fait croire qu'elle a des coups de foudre, et qui donc va lui raconter, se faire passer pour un médium. » C'est comme ça qu'il a eu l'idée du film.
Ah oui, c'est passionnant, effectivement. et oui, alors moi, ça m'a traversé l'esprit aussi d'écrire un recueil de nouvelles du révérend Basson. D'ailleurs, dans l'édition aux éditions d'eau, donc dans le grand format quand il est paru, dans la liste du catalogue des éditions d'eau, il est présent, le révérend Basson. Il y a un petit clin d'œil à lui, d'un de ses recueils de nouvelles, d'un autre. Et effectivement, quand j'ai lu, il y a notamment un bouquin, par exemple, qui s'appelle « Le jardin des sept crépuscules », je ne sais pas si vous en avez entendu parler, où c'est la mécanique, en fait, c'est qu'il n'y a même pas deux niveaux de lecture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... une personne qui lit quelque chose dans le récit, mais il y en a 9.
Ah.
Donc effectivement, un petit peu plus compliqué comme exercice, mais effectivement, cette idée d'avoir plusieurs niveaux, ça me fascine, oui.
J'étais en train de me dire que c'était très borgésien, et ça tue ma question d'après, tant pis, c'est pas grave. Je me suis demandé, moi surtout, si vous étiez lecteur de littérature britannique, parce que j'ai eu l'impression que votre livre, vous auriez même pu faire croire que c'était une traduction de l'anglais. On pense à Lewis Carroll, évidemment, on pense à Peter Pan, mais à plein d'autres romans anglais de cette époque-là, où il y a des univers comme ça, très onériques. C'est vraiment une littérature que vous aimez ?
Oui, c'est une littérature, c'est pas celle que je connais le mieux, parce que je suis je m'estime grand lecteur de littérature plutôt latino-américaine.
Ah, donc Borges, c'était bien.
Donc Borges, ça fonctionnait vraiment extrêmement bien.
Zut.
Mais j'aime énormément la littérature britannique et j'aime plus que tout encore la langue et le ton qui sont employés. Donc cette, on parlait d'une forme de distance du narrateur. Il y a quelque chose dans ce que j'aime, dans, mettons, Edith Wharton ou les Sœurs Brontë. Il y a quelque chose, ou même Rachel Cusk plus récemment, côté irlandais. Il y a vraiment une forme de détachement, d'ironie assez mordante, et ça effectivement c'est quelque chose dont j'aime bien m'inspirer.
On s'était connus, on l'a dit tout à l'heure, je vois l'heure qui tourne, vous étiez auteur d'une BD à l'époque, vous étiez co-auteur d'une BD, ça pourrait devenir une BD Scarborough ?
Dans ma tête, ça pourrait effectivement, moi j'aimerais, j'adorerais, et une amie d'ailleurs BDiste m'avait dit que ce serait intéressant à adapter. Parce que moi, en tout cas, dans ma tête, les images sont très claires, puisque j'ai fait des recherches sur Scarborough, je l'ai vu beaucoup dans des films. Donc
Allez-y.
Non, donc je pense qu'il y a un territoire visuel assez magnifique de cette côte anglaise et des représentations qui peuvent être intéressantes. Maintenant, je ne sais pas dessiner.
Mais vous ne savez pas du tout dessiner, vous ne pourriez pas vous écrire des storyboards.
Ce serait une catastrophe.
C'est comme quand moi je parle anglais. Justement, parce qu'il y a aussi un lien avec le cinéma dans votre livre qui est très présent. Histoire, je ne sais pas si c'est un hasard ou si c'est après coup que vous avez trouvé tout ça, avec tous ces liens. C'est aussi des liens entre cette ville et cette chanson et des films que vous aimez. Alors, en tout cas, qui aime le personnage, en tout cas. Vous, je ne sais pas.
Alors, il y a effectivement...
Et notamment le film de Sofia Coppola, dont le titre m'échappe, un de plus.
Lost in Translation.
Voilà, ben j'étais lost.
Tout à fait. Il y a Lost in Translation, il y a aussi Sainte Maud, qui est un film que j'adore. Et mais on le disait tout à l'heure, on peut toujours trouver des hasards et des coïncidences grâce à cette petite merveille qui est Wikipédia. Et effectivement, ça a été des coïncidences. Sainte Maud, qui est un film que j'adore, je ne savais pas que c'était tourné à Scarborough en commençant à écrire Scarborough.
Vous y êtes allé en vrai à Scarborough ?
Je ne peux pas répondre à cette question.
Ah, peut-être que vous y êtes encore, en fait.
Je ne sais pas.
Et peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui est là. Le plus beau compliment qu'on puisse vous faire, c'est de dire que ce livre nous a donné envie de découvrir tout Simon et Garfunkel, d'aller à Scarborough ou lire tous vos autres livres ?
Ah, d'aller à Scarborough, indubitablement. Puisque c'est que j'ai réussi à rendre sans jamais y avoir mis les pieds. Je me suis balancé.
Rien fait.
L'atmosphère qui, j'espère ou j'imagine, règne là-bas. Et j'espère que si jamais c'est arrivé à quelqu'un, il ne sera pas déçu.
Un mot sur la chanson, de quoi elle parle ? Parce qu'on n'a rien dit pour l'instant.
Ah non, mais c'est vache de me faire ça au moment où il faut qu'on arrête, parce qu'elle est très complexe. Elle parle, a priori, d'un homme qui charge un autre homme, qui lui va à la faire, donc la grande foire de Scarborough, de dire à sa bien-aimée qu'il l'aime toujours, et que si elle veut revenir, elle doit relever 3 défis qui sont impossibles à relever. Donc il y a déjà quelque chose de très curieux dans cette proposition, parce que c'est quelqu'un qui fait une déclaration d'amour à une femme, donc par l'intermédiaire d'un autre homme, et qui lui dit « si tu veux revenir », sachant que c'est lui qui dit qu'il est amoureux, il faut que tu relèves des défis qui en plus sont impossibles à réaliser. Et ça fait partie du mystère autour des paroles, cette chanson.
On va l'écouter justement. Pour se quitter, on se quitte avec Simon et Garfunkel. Ça s'appelle Scarborough Fair. Merci beaucoup Luc Dagonet. Pour le coup, pour une fois, je ne vais pas parler sur le générique parce que quand même, c'est du Simon et Garfunkel. Votre livre Scarborough donc, est paru aux éditions Satellite. L'émission, on ne va pas dire qu'il l'a présenté, on va juste dire que c'était Pablo qui l'a réalisé et que celle-ci et toutes les précédentes peuvent se retrouver sur le site de Radio Campus Paris. Je vous souhaite une très bonne soirée. On écoute Simon et Garfunkel.
Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. To make me a cambric shirt, a deep forest green, parsley, sage, rosemary, and thyme, sweet-smelling snow-crested pine, without no sleep. Strands and polishes of and she'll be a true love of mine. Tell her to reap it in a sickle of blazing in scarlet battalion. Parsley, sage, rosemary, and once was a true love of mine.